Bienvenue dans la deuxième saison de Cast. Le principe n'a pas changé. On reçoit toutes les semaines les personnalités qui font et défont la mode. Des talents, mais surtout des histoires de vie touchantes et inspirantes. Chacun leur tour, nos invités viennent nous raconter sans détour leur parcours, leur expérience et leur vision de l'industrie. C'est parti.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
Et la Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those ? Dior clothes.
It's fashion art.
Yes.
Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Okay, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know ?
That's all, that's all.
Pour ce 32e épisode, on accueille une entrepreneuse dans l'âme, Kitsy Martin. À la tête d'une marque de bijoux upcyclée et cofondatrice du concept de hip-hop yoga Humble Warrior. Aujourd'hui, elle est venue nous parler de toutes les étapes qui lui ont permis d'en arriver jusqu'ici, mais aussi de ses projets d'avenir. Bonjour Kitsy.
Bonjour.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Ça va très bien, et vous ?
Ça va super, on est trop contents de te recevoir, ça fait un moment qu'on avait envie que tu viennes nous raconter un petit peu ta vie.
Ça me fait très plaisir d'être ici.
Je laisse Nico commencer, il est très fort pour lancer la première question.
C'est un peu ma spécialité. Non, bah, c'est cool, tu nous as dit, tu viens de nous dire hors antenne que t'écoutais le podcast. Donc voilà, on veut juste que tu nous racontes un petit peu ton parcours de vie, personnel et professionnel surtout. Tu le commences quand tu veux et on essaye de venir lentement, mais sûrement jusqu'à ton actualité.
D'accord. Alors, je m'appelle donc Kitsy Martin, j'ai 37 ans et je
What?
Suis...
What?
Ouais.
What?
Moi, je le savais, donc je suis pas surprise, mais...
Ok.
Ouais, je suis d'origine asiatique, c'est ça.
The good jeans.
Good jeans, quand même.
The good jeans.
Et malgache un peu aussi. Donc, tu vois, il y a le combo Afrique-Asie.
Ah ouais, cool. Là, t'es béni des dieux.
Et en fait, j'ai donc ma marque de bijoux upcyclée qui porte mon nom, Kitsy Martin. Et je suis aussi la fondatrice, cofondatrice du concept de hip-hop yoga Humble Warrior.
Ouais, moi c'est comme ça que je t'ai découvert il y a...
C'est vrai ?
Oula, 3 ans peut-être ?
Ah ouais, je savais pas.
Ouais, ouais, ouais.
Ah, trop bien. Donc voilà, donc, je suis un peu prof de yoga,
okay.
Beaucoup
styliste. Tu viens d'où ?
Je viens d'où ? Ouais. J'ai grandi en région parisienne, à Colombes.
Okay.
Ah, ok.
Et je n'ai jamais quitté la région parisienne, puisque j'ai fait des études dans les arts appliqués. J'ai été prise dans les écoles d'art appliqués, genre Olivier de Serres, puis après les arts décoratifs de Paris, design de vêtements. Et en fait, c'est là où il y a tous les meilleurs stages à faire, Paris. C'est
Bien
là
sûr.
Où il y a les plus grandes maisons. Et j'ai pu faire beaucoup de stages dans les grandes maisons de luxe. Et puis, c'était vraiment mon objectif à l'époque de
la venir, mode.
Ouais,
mode
je voulais vraiment être designer dans le luxe. C'était vraiment mon objectif.
C'est ton truc depuis gosse, quoi. C'est quoi ton premier souvenir de mode ?
Alors, ma mère, forcément. Je pense comme beaucoup
Ça revient souvent.
Ma mère qui est très coquette et qui m'a un peu inculqué le... On arrive à trouver des choses pas chères, mais qui font chic. Et ma mère m'a appris à regarder les étiquettes à l'intérieur des vêtements. Regarde la matière, polyester, soie, coton. Elle m'apprenait.
Ah, donc une vraie éducation produit.
Et c'est étrange parce qu'elle est pas du tout. Elle connaît aucune marque de luxe. Elle a un peu peur du luxe, comme beaucoup de gens qui connaissent pas ce milieu. Ils ont l'impression que c'est pas pour eux. Je pense qu'elle osait même pas rentrer dans une maison, dans une boutique. Et en fait, elle m'a tellement affiné l'œil à m'obliger à choisir des matières naturelles plutôt que des compositions un peu trop mélangées, qu'au final, elle, sans le savoir, elle m'a guidée vers ça.
Oh, c'est trop cool.
Ouais.
Donc, parcours scolaire...
Hyper classique, parce que ni ma mère ni mon père sont dans un milieu créatif, un commercial et une secrétaire, donc rien à voir. Et en fait, classique, mais c'est vrai qu'à la fin de mes années lycée, j'étais un peu la seule, puis moi j'étais en banlieue et tout, j'étais la seule à prendre le train vers Paris, le train de banlieue, pour aller voir des expos, regarder ce qui se passait dans l'art contemporain, dans l'art moderne. C'était quelque chose qui m'attirait quand même. Je prenais déjà des cours de dessin. Donc j'aimais déjà faire des choses avec mes mains, mais pas forcément liées aux vêtements. Par contre, je m'amusais beaucoup avec les vêtements. C'était quelque chose qui me donnait un pouvoir magique, quoi, parce que j'étais pas très sûre de moi. J'étais assez timide et grâce aux vêtements, je prenais confiance. Je me faisais un petit look qui me parlait, moi, à l'époque.
Ouais.
Et en fait, je suis arrivée, du coup, en terminale et je me suis dit, j'ai envie d'être dans les arts appliqués, quelque chose qui est vers le design. À l'époque, c'était plus le design d'objets, peut-être, qui m'intéressait.
Okay.
Parce que l'architecture d'intérieur me plaisait beaucoup. Et je suis rentrée à Olivier de Serres, j'ai eu les concours Et très très vite, les profs me regardaient et me disaient « Mais toi, tu vas aller en vêtements en fait, t'as rien à faire en design d'objets. » Parce qu'ils voyaient que je m'amusais énormément avec les vêtements. Juste en me regardant, ils le voyaient.
Tes looks et tout, ouais.
Voilà.
Parce qu'en plus, toi, t'es la même génération que moi, ça veut dire que t'as grandi sans internet.
Exactement.
Donc quand tu disais « Je vais aller faire des expos, des trucs », c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre accès à la culture.
Voilà, c'est ça, exactement. Il
pour
y avait
le
rien
mettre
d'autre.
Dans le...
Ouais, pour que les gens comprennent.
Pour que les gens comprennent.
Ouais, c'est ça. Bah ouais, tu débarquais dans la capitale à 15 minutes en train et moi, j'avais des étoiles dans les yeux, quoi. Et ouais, c'est ça. Et en fait, tu te forges un peu en regardant les autres. Moi, je regardais beaucoup les looks des gens. Et c'est vrai que pourtant, je n'étais pas dans une banlieue hyper loin, mais il y a déjà une différence de look entre les gens de Paris, les gens en banlieue. Et ça, je le sentais et c'est quelque chose qui me fascinait. Et je me suis dirigée vers les arts appliqués et je me suis éclatée. J'ai adoré ces études-là. Et en fait, très, très vite, donc je suis partie vers le textile au lieu de partir vers le design. Et c'est là où les maisons, ma première maison où je suis allée, c'était à l'époque, c'était Felipe Oliveira Batista.
Ah, cool.
Ah, cool.
Qui avait encore sa marque à l'époque. Ouais. Et en fait, j'étais tombée amoureuse, j'ai eu l'adrénaline des défilés, le casting, les fittings. J'avais trouvé ça fantastique. Et j'étais vraiment la petite fourmi qui donnait tout pour appartenir à ce milieu.
Place.
Ouais, vraiment. Et je suis tombée quand même dans la bonne équipe parce que Felipe, c'est quelqu'un de très bienveillant.
Ouais.
C'est très agréable de travailler avec lui. Et puis après, j'ai découvert les autres maisons.
C'était pas la même vibe.
C'est pas la même vibe. Et j'étais rentrée chez Vuitton.
Ah ouais, t'as fait le grand écart américain.
Grave, avec Marc Jacobs. Et j'étais dans le studio, donc. Et j'assistais à la nana qui faisait tous les classeurs de moodboard.
Ouais, ça, c'est génial.
Ouais, alors c'était
pour la
hyper
culture.
Ouais, vraiment. Et en fait, elle m'obligeait à regarder tous les ID, tous les Dazed, à feuilleter, à chercher le moindre détail dans tous les éditos qui pouvaient me plaire et ce qui lui plaisait en fonction du thème qu'elle m'avait imposé, forcément.
Ouais.
Et je me souviens, par exemple, c'était une grande page sur un édito, s'il y avait juste la boucle d'oreille de la nana qui était belle, je devais faire, c'était à l'époque, hein, une photocopie,
ouais.
Une photocopie, plusieurs fois. Donc je photocopie une fois, puis une deuxième fois en plus grand, puis encore en plus grand, pour avoir vraiment le détail qui l'intéressait. Donc vous imaginez le temps de... Je connais tout sur les photocopieuses. Je suis calée à photocopieuse. Et en fait, j'ai eu aussi l'adrénaline du défilé parce qu'on faisait les nuits blanches avant. T'es stagiaire, t'es quand même invité au défilé. Puis Vuitton, c'est un peu le grand jeu, tu vois. Ils te payent des taxis pour aller faire des courses. J'ai adoré. Ça m'a affiné l'œil aussi. Donc tout ça, c'était hyper bien. Et puis de fil en aiguille.
C'était hyper créatif l'époque Marc Jacobs en plus, quoi. C'était
il
vraiment.
Se lâchait.
Ouais, il avait pas de limite.
Ouais, les sacs c'était de la folie, les chaussures.
Puis c'était le chouchou de Bernard Arnault. Donc,
mais il était cool en plus, tu vois. J'ai un souvenir de. Bon, on le voyait peu parce que forcément il habitait pas là, mais quand il débarquait, il y avait une ambiance cool, mais beaucoup de travail évidemment, normal. Et après ça, je suis arrivée chez Balenciaga en tant que stagiaire.
Cool, quand même.
Et là, j'ai assisté les stylistes maroquinerie et chaussures.
Parce là, qui était le designer à cette époque-là?
Nicolas Gussière.
Okay.
Et j'étais ultra fan de lui, de son travail. Je suis toujours très, très fan de son travail. Hein. C'est vraiment lui qui m'inspire le plus. Et je me souviens, je disais, je suis prête à payer pour être stagiaire chez Balenciaga.
Oh là là.
J'étais ultra contente d'être prise. Et je suis restée très longtemps quand même. Je suis restée 9 mois. Ça s'est super bien passé, j'ai appris énormément. Et puis, j'assistais vraiment des designers. Là, c'était plus aussi vague que chez Vuitton. J'étais vraiment dans l'élaboration d'un produit de A à Z en aidant les designers. C'était hyper intéressant. En les aidant sur les fittings avec Nicolas. Donc, je voyais aussi comment ils travaillaient en termes de direction artistique. C'était hyper enrichissant. Et après ça, je suis partie chez Chloé, une maison beaucoup plus sage quand même en termes de design.
T'as quand même un profil access, parce que Chloé, après, c'est une maison qui est très, très accessoire aussi. Hein.
Ouais. Et en fait, c'est ça aussi ma patte en vêtements, même si je faisais du vêtement. C'est toujours un vêtement avec des apprêts textiles dessus, des broderies, le rachat de matière. Je pars jamais dans des folies de volume. Mon truc, c'est vraiment de travailler la matière, donc c'est quand même proche de l'access, tout ça, définition. Et après Chloé, il y a eu Balmain.
Attends, Chloé, combien de temps tu restes?
Chloé, j'étais stagiaire, je suis restée, je crois que ça a duré 6 mois.
Ouais.
Et j'avais assisté à l'époque Christelle Cochet, qui était styliste chez Chloé.
Trop drôle.
Ouais, et elle était styliste floue, donc je l'aidais avec c'était que du moulage sur du vêtement. Donc là, c'était un exercice compliqué pour moi, parce qu'à la limite, styliste, chaîne et trame, tailleur, tu peux apporter les broderies, c'est plus facile, c'est lourd et tout. Mais quand c'est flou, tu travailles vraiment le volume avec la matière. Donc je travaillais en moulage, c'était un gros exercice, mais j'ai adoré. Et puis, à la fin, Christelle est partie avant moi.
Okay.
Elle était partie pour aller chez Riquiel. Et je me suis retrouvée sans maître de stage. Et je me suis dit, mais je vais faire quoi ici sans elle? Parce que je l'assistais vraiment, elle, en fait. Mm-hmm. Et à l'époque, Balmain était en train de renaître de ses cendres avec Christophe de Carnin. Mm-hmm.
Okay.
Et j'aimais beaucoup cette vibe un peu sexy.
Rock.
Ouais, rock. J'avais trouvé ça trop cool à l'époque. C'était nouveau. C'était en même temps que Christopher Kane, toutes ces petites robes mini, là. Et donc, j'ai postulé là-bas et j'ai été prise. Et là aussi, là forcément avec la broderie chez Balmain, quand t'aimes la broderie, tu t'éclates quoi. Genre des broderies avec des Swarovski, tu fais des trucs de fou. Et
ça c'était tes premiers jobs du coup, Chloé et Balmain.
Chloé j'étais encore stagiaire, Balmain aussi. Et en fait, Balmain m'a finalement prise après comme freelance et j'étais encore à l'école. J'avais pas fini l'école. Ils m'ont dit écoute, il y a une place pour être designer maro. Et ils savaient que j'adorais l'accessoire. Vas-y, on fait ça. On n'a pas encore trouvé quelqu'un. C'était un peu genre pour boucher le trou, tu vois. Mais j'étais trop contente.
C'était une petite équipe en plus à cette époque-là.
Ouais,
ils étaient tous dans leurs anciens bureaux.
Ouais, c'est ça.
C'était
un truc un peu
30
feutré.
Personnes, quoi.
Mais même
comme ça.
Pas, tu vois. Genre, il y avait, ouais. Bah oui, en comptant l'atelier. Mais tu vois, au studio, on était 4 stylistes. Rien, quoi.
Il était tellement fort, Christophe.
Trop fort. Trop fort. Vraiment, il a réveillé la maison, en fait.
Ah ouais.
Et on s'est trouvé un peu triste parce qu'on l'oublie. On parle beaucoup d'Olivier.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est quand même Christophe de Carnin qui a ramené cette vibe sexy chez Balmain.
Il a sauvé. Enfin, il a.
Il a réveillé, vraiment. Ouais, ça dormait, quoi. et c'était hyper enrichissant.
Je rêvais d'avoir le biker jeans moi-même.
Bon, ah oui.
Mais le roll jeans, c'était.
C'est ça. Mais en plus, ce jeans, c'est qu'il était pas stretch parce que Christophe n'aimait pas le stretch. Pas assez chic, tu vois. Donc du coup, tu le mettais, tu restais debout, en fait.
J'avais vu sur Kanye à l'époque, je me disais, Et après, j'avais vu le prix, je me disais, pas du tout.
C'était ultra désirable, en fait, ce qu'il faisait.
Ah ouais, grave.
Ses robes et tout, c'était sublime. Et voilà. Et après. Cette expérience-là, il a fallu que je trouve un CDI parce que y a la réalité après de
financière.
La vie, voilà.
Bien sûr.
Et très vite, forcément, j'ai trouvé chez Hiro parce que quand tu leur sors ton CV de luxe, ils sont friands toutes ces petites marques-là.
Ouais.
Et c'était chouette aussi. Donc là, c'était mon premier CDI. Je sors de l'école, finis l'école, je suis jetée dans le truc.
T'as quel âge là ?
Là, j'avais 25 ans. Ouais. Okay. Donc, j'avais quand même eu tellement d'expérience avant de sortir de l'école que j'étais un peu confiante. Mais en fait, je n'avais pas réalisé la réalité que c'est d'être designer.
Mm-hmm.
Parce qu'en fait, quand tu es dans les maisons, mine de rien, on te porte beaucoup au début. Tu vois, jamais on va te laisser faire de A à Z un truc. On va dire, tu fais cette petite partie-là qui va être ensuite travaillée par une autre personne, etc. Et là, on me lâchait complètement pour faire du chaîne et trame. Et donc, c'est tout ce qui est veste, manteau, pantalon, tout ce qui n'est pas mou comme de la maille, en fait.
Okay.
Et je me souviens, j'étais tétanisée. Je me disais, mais comment je vais faire? En plus, dans ces marques-là, on t'apprend tu dessines, tu donnes ton dessin à la modéliste et puis tu vois un proto. Alors que dans le luxe, tu fais des essais par moulage. C'est une autre démarche. Et donc, j'ai été honnête avec eux. Je leur ai dit, mais moi, je peux faire ce que vous avez aimé dans mon book, mais il faut que je fasse des essais textiles. Il faut que j'expérimente, comme ce que j'ai appris chez Balenciaga, chez Chloé.
C'est des coûts qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir.
Exactement.
C'est proto-produit.
Direct. C'est ça. Et en fait, ils ont été hyper ouverts d'esprit. Ah. Parce que c'est des... Arik et Laurent, ils sont jeunes, ceux qui ont monté... Hiro. Et en fait, ils se sont dit, on tente, parce que c'est vrai que la marque, elle était à deux doigts à l'époque de couler, en fait.
Ah, ok.
Ouais. Et ils m'ont dit, ok, vas-y, qu'est-ce qu'il te faut? J'ai dit, il me faut une stagiaire, parce que toute seule, je vais pas pouvoir faire autant d'essais textiles. J'ai pris une stagiaire, qui est maintenant ma meilleure amie, c'est drôle. et en fait, on a balancé des essais textiles à gogo, et on a fait une collection beaucoup plus riche que ce qu'ils avaient l'habitude de proposer. Et ça a cartonné.
Ah, parce que moi, pour moi, Hero, c'est un truc, un gros succès commercial, quoi, quand je pense à la marque.
Ouais, complètement. Surtout à cette époque-là. Là,
ouais, surtout à cette époque-là.
Il prenait pas de risque dans le sens où il regardait ce que faisaient les défilés.
Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Comme beaucoup de genres de marques.
De moyenne gamme, exactement. Donc, mais on s'est débrouillé pour faire en sorte que ce soit. Parce qu'à la base, ils ne sont pas designers. Donc, en fait, je pense qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Et donc, j'étais là entre les deux. Et c'était bien pour moi parce que je comprenais l'aspect commercial d'une marque. Mm. Et en même temps, j'essayais de tirer toujours vers quelque chose de plus créa. Mm. Et ça s'est super bien passé, mais épuisé parce que j'étais jeune.
C'est une grosse responsabilité.
Ouais, j'ai tout donné, tu vois. Genre, je finissais hyper tard. Et je prenais vraiment à cœur ce boulot-là. Mais en fait, je me suis épuisée. Forcément. Et puis dans ces petites marques-là, tu vois, t'es pas hyper bien payé. Ouais. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve un autre chemin. Et surtout, j'en avais marre qu'on me rabâche tout le temps. Ah, mais attends, il y a les défilés, ils font ça, donc il faut faire ça. Je crois que j'avais envie d'un truc plus créa. Et au moment où j'avais cette envie-là, il y a Felipe Oliveira Batista qui débarque en DH chez Lacoste. Yes. Et on était restés en contact parce que du fait qu'il soit aussi humain, on était restés en contact, etc. Et je lui envoie un message assez simple, un mail. Je lui dis, j'ai vu que t'es arrivé chez Lacoste. Si t'as besoin de quelqu'un, sache que je cherche quelque chose. Et là, il me dit, écoute, les équipes sont faites, mais je cherche quelqu'un pour développer la ligne de yoga wear. Truc que j'ai jamais fait de ma vie. Okay. En plus de la maille, c'est que de la
toi,
maille.
Toi, tu fais déjà du yoga à cette époque-là?
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Mais j'en avais jamais entendu te parler. Pour moi, c'était un truc de hippie, de mec en sarouel
qui vont en Ardèche, quoi. Tu vois, j'en ai jamais entendu parler de ça.
Et moi, je me dis, non, mais je sens qu'avec Felipe, ça peut être cool.
Ouais.
Donc, je pars chez Lacoste et je me dis, je vais quand même essayer un cours de yoga histoire de voir ce
de
que
quoi
je dois
il
faire. Ouais, voilà. Et puis, c'était il y a combien de temps? C'était il y a. À l'époque, j'avais 28 ans, donc presque
10 ans.
Donc à l'époque, le yoga, c'était pas comme aujourd'hui.
Non,
on en voit partout, on sait ce que c'est un legging et tout. Mais à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait aucune image, il n'y avait pas Instagram pour s'inspirer, il n'y avait rien.
Mais ça lui vient d'où, du coup, cette idée de vouloir lancer cette gamme?
C'est pas lui, c'est... Alors Lacoste, c'est tellement une grosse machine.
C'est peut-être
c'est
l'équipe marché.
Marketing voilà, des États-Unis qui a dit, il faut lancer ça, on y va. Okay. Donc... il m'a laissé cette ligne-là et en fait j'ai testé un cours de yoga pour comprendre un peu ce qu'il fallait faire. Je me suis retrouvée dans un bourbier de hippie qui m'allait pas du tout. J'ai détesté ça.
Ah non merde, je croyais que t'allais me dire.
J'ai eu la révélation.
Ouais, j'ai eu la révélation.
Laisse tomber. Je me disais mais c'est quoi ce délire et tout. Elle m'a fait chanter des mantras en sanskrit. Elle a démarré fort.
Ah ouais,
fort,
t'as pris un mode difficile tout de suite. Quoi.
Ouais. Ouais. Et après tu sais, je me dis mais elles sont où les nanas qu'on voit sur Tumblr, tu sais, qui font des trucs les pieds en l'air et tout ça. J'ai cherché parce que c'est opaque au début. Tu sais pas ce que c'est le yoga. Il y a différents trucs. Tu sais pas vers quoi. Ouais. J'ai compris que ce que je voulais voir, c'était le vinyasa. Donc, j'ai testé un cours de vinyasa. Et là, révélation.
Quand même.
Parce qu'à la base, je fais de la danse depuis que je suis toute petite. Donc, il y avait quand même... j'avais une souplesse déjà à la base. Et puis...
Mais le vinyasa, il y a le côté très chorégraphié aussi.
Ouais, voilà, c'est ça. Très fluide. Et puis, j'ai retrouvé cette espèce de rigueur dans les alignements avec la danse qui me plaisait beaucoup. Et je suis tombée dedans et de pratiquer à un jour par semaine, c'était tous les jours à fond.
Ah ouais.
Voilà, c'est comme ça que je suis tombée dans le yoga en fait.
Ok.
Et ça c'était ouais, genre mes 28 ans à peu près.
Ouais.
Voilà. Et là, voilà, j'ai l'impression que c'est sans fin.
Non, justement c'est ça qui est bon.
Ça n'arrête pas en fait. J'ai passé je crois 3 ans chez Lacoste à peu près.
Ouais, ok quand même.
Ouais, hyper intéressant, hyper formateur pour tout l'aspect... commercial, marketing,
ouais, c'est une machine,
développement là. De collection, ouais. Parce qu'on protège vachement de ça dans les autres maisons quand t'es designer. On t'en parle même pas. Les problèmes de prix, de fourniture, de production, tu sais même pas ce que ça veut dire. Et là, t'es dans le cœur du sujet. En gros, si le chef de produit te dit non, ça va pas le faire, tu peux pas faire. C'est comme ça.
Okay.
Donc c'est très frustrant, mais t'apprends énormément. Sur une marque, tu comprends pourquoi on choisit telle couleur et pas une autre, tu comprends ce que c'est le merchandising, tu comprends pourquoi ton produit il marche parfois et parfois moins, tu comprends la communication parce que dans les autres maisons, tu sais, t'as les meilleurs photographes, les meilleurs mannequins, donc ça roule, alors que là c'est autre chose, faut travailler tout le temps le truc, et puis tu comprends aussi le merch, Donc moi, c'est quand même une grosse blague chez Lacoste, c'est qu'ils m'ont fait venir pour dessiner une ligne de yoga, mais il n'y avait pas de place dans le merchandising pour mettre cette ligne de yoga en place.
Wow.
Donc en fait, et comme chez Lacoste, on dessine un an et demi en avance, c'est un an et demi après que je me suis rendu compte que ma ligne de yoga était visible que dans 3 boutiques dans tout le réseau Lacoste.
Arrête.
Donc les boules quand même.
Tu alors travailles... qu'ils ont un énorme réseau en plus.
Ouais, mais en fait, la priorité des réseaux Lacoste, c'est les polos.
Oui, bien sûr.
Le parfum, les accessoires. Donc, tout ça, ça prend de la place, surtout leur bar à polo, là.
C'est un mur entier.
Voilà. Donc, toi, t'arrives avec forcément tes leggings et tes brassières. Les clients viennent pas chercher ça en premier chez Lacoste. Non. Tu passes à la trappe. Et c'est comme ça que ça se passe chez Lacoste. Donc, frustrant, mais j'ai compris plein de choses. Grâce à ça, j'ai compris énormément. Et quand je suis partie, c'était pour aller retourner vers la maroquinerie, mon petit bébé. Et là, j'ai été directrice artistique de la maison Perrin Paris, qui est une toute petite maison de luxe de Maroc.
Okay.
Et c'était cool, parce qu'en fait, c'est un ami à moi qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, Simon Rivero. KDA.
Oui, bien sûr, Simon, on bosse souvent ensemble.
Ah ben, on était ensemble aux Arts Déco.
Ok, voilà. Il est trop cool, Simon.
Et c'était déjà aux Arts Décoratifs de Paris, c'est lui qui avait fait ma DA, image de ma collection de fin d'année.
Ok, donc on se retrouve. La boucle est bouclée.
Voilà, on se retrouve à l'époque chez Perrin. Et là, c'était chouette parce que je reprends le côté créa, je m'éclate et tout ça.
Image.
Enfin, genre, j'ai adoré et tout ça, mais j'étais quand même encore un petit bisounours, hein. Je comprenais pas tout bien, mais voilà, au moins je m'éclatais en termes de design, de développement de collection, tu dessines un produit, il est dans la boutique, un truc assez simple. Et en fait, après toutes ces expériences, parce que mine de rien, c'est beaucoup de choses différentes, j'avais envie d'être ma propre chef. Et je suis pas restée du tout longtemps, je suis restée au final 6 mois chez Perrin.
Ok.
Et il se trouve que le directeur général de cette marque était jeune, on avait le même âge. Mmh. Et il me fait « Ouais, moi aussi j'ai envie de monter mon truc ». Et on s'est cassés tous les deux et on a monté une marque.
Ah non, c'est énorme ça. Ouais.
Ensemble ou c'est...
Ensemble.
Ah ok.
Ouais. Donc voilà, et en fait on se casse et on fait notre marque de maroquinerie qui s'appelait Amé Martin. Et moi au design et lui plus sur la communication, l'aspect presse, etc. Et en fait, c'est là où je rentre dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ouais. Je découvre ce que c'est d'être dans ce grand, grand bain. Et j'ai kiffé. Parce que, genre, il y avait des présentations pendant les Fashion Week.
Ça t'a pas fait peur, après un parcours temps, dans des grandes boîtes et tout, de se lancer...
Je pense que je me rendais pas compte du tout. Maintenant, avec le recul, jamais je referais la même chose de cette manière-là. En fait, heureusement, j'étais soutenue avec, il s'appelle Jean-Baptiste. Lui, il avait bien compris l'enjeu de la presse, de la communication. Il a tout de suite voulu qu'on prenne un bureau de presse. Je ne sais même plus le nom de ce bureau de presse, qui était un bureau anglais, je me souviens.
Okay.
Et en fait, il a tout de suite compris quel type de rédactrice il fallait toucher en fonction de notre cible. Des choses que moi, alors là, je ne captais absolument pas. Mmh. Vraiment, je ne comprenais rien. Il me montrait quelle fille était importante dans le milieu. Et c'était hyper formateur. Et en même temps, le gros hic dans cette histoire, c'est qu'on faisait des sacs qui coûtaient 1500, 2000 euros.
Mais quand t'es pas une marque établie, c'est compliqué. Hein.
Déjà, en Maroc, le milieu est ultra concurrentiel, ouais. Surtout au luxe. Et aussi, moi, avec le recul, je me rends compte, c'est que je n'étais pas ma propre cliente. C'est-à-dire que j'essayais de vendre un sac à une nana que je ne comprenais pas. C'était des nanas qui traînaient au Café de Flore, qui traînaient dans le 7e et dans le 8e arrondissement, chose qui n'était pas du tout mon quotidien.
Toi, ouais.
Ouais, vraiment. Et c'est des nanas qu'on rencontrait au showroom, quand on essayait de les attraper pendant la Fashion Week, mais j'avais rien à leur dire, on était trop loin, trop loin. Et petit à petit, la marque... On s'est retrouvés à être essoufflés, en fait. On avait vendu des sacs, mais pas assez, évidemment, pour vivre. En plus, quand t'es deux, il faut lâcher 2 salaires. Voilà, moi, je faisais mes missions freelance à côté. Enfin, c'était galère. Vraiment, à la fin, j'étais épuisée. Et on a décidé de stopper la marque. Et là, petite pause, freelance. Je reprends mes petits freelances tranquilles, à gauche, à droite. Et là, je travaille pour tout et n'importe quoi. Et avec le CV que j'avais, ça passait.
Ouais, bien sûr.
Mais tu vois, je me suis retrouvée à bosser pour des marques comme Jennifer, The Couples, trucs qui n'ont rien à voir, Fusalp, pour le côté un peu Lacoste, quoi.
Mmh. Ouais.
Donc, j'ai travaillé pour plein de trucs différents, comme ça. Tu connais
Fusalp ? Je regarde parce qu'on a une grande fan de Fusalp au bureau.
Ouais. C'est vrai ?
Ah ouais, ouais, elle s'habille qu'avec ça.
Sérieux ? Trop drôle. Trop drôle.
Carole, dédicace.
Bah voilà, pas Fusalp. Donc, je me retrouvais à Annecy dans les bureaux de temps en temps. Donc, changement de vie, mais ça m'a fait du bien de sortir un peu du côté Fashion Week, quoi, qui est quand même prenant. Et là, j'ai ma pote Dani, que je connais du yoga.
Ah, j'adore Dani.
Parce que tu es toujours dans le yoga tous les jours. Hein.
Ouais, en plus, encore plus en étant entrepreneur, parce que t'as du temps.
Tu peux organiser ton temps.
Voilà, t'organises ton temps. Et elle me fait, ouais. Parce qu'en fait, Dani, pour l'histoire, nous, on se connaît de notre cours de yoga. Et
vous preniez des cours ensemble ?
Voilà, sans se connaître. Et comme dans tous les cours de yoga, on se dit bonjour, mais pas plus que ça. Et en fait, on se recroise à des soirées dans Paris, des soirées hip-hop, parce que j'aime beaucoup cette musique, et Dani aussi. Et là, on se voit, et on a presque du mal à se reconnaître, parce qu'on se voit que en leggings et en brassière. Quoi. Et on se voit un peu pimpé en soirée, et tout. On se dit, mais attends, mais on est dans le même cours de yoga, et on parle, et elle me dit qu'elle est dans la mode, moi aussi. Et en fait, on a quand même 3 points communs, et on devient copines assez naturellement. Et en fait, on faisait des trucs du style, on allait à notre cours de yoga qui finissait à 21h, et après, on allait se changer et on se retrouvait genre à minuit pour aller à la soirée de Virgil Abloh, tu vois, c'était que des trucs comme ça. Et on a eu des belles années ensemble comme ça. Et un jour, elle me dit, ouais, il y a un truc trop cool aux États-Unis, il y a du hip-hop yoga. Et on n'a pas ça en France.
Ouais, parce que Dani, elle est américaine. Hein.
Elle est new-yorkaise.
Ouais.
Donc, elle me dit ça et je suis, mais s'il y a une personne qui doit lancer ça, c'est toi. Parce que Dani, elle a un look hyper cool.
Ouais, génial, Dani.
Ouais, tu la vois, t'as envie d'être sa copine en fait. C'est vraiment genre, elle est hyper inspirante. Et elle traînait, elle faisait rien. Ça faisait des mois qu'elle m'en parlait, ça n'avançait pas. Et elle me disait, regarde, il y a une telle qui a lancé un truc de hip-hop yoga. Je fais, bah ouais, mais fonce, vas-y. Et moi, ça y est, j'avais quitté mon monde entrepreneurial. Et à un moment, je lui dis, bah vas-y, si tu veux, je le fais avec toi. Je sais comment monter une marque. Je comprends maintenant ce que c'est de communiquer. D'après ce qu'il faut toucher, on y va, on le fait ensemble. Et donc c'est parti, on a monté Humble Warrior.
Trop, trop cool.
Voilà.
La marque, elle est hyper forte. Enfin, moi, vous m'avez fait découvrir le yoga, pas découvrir, mais en tout cas, vous m'avez fait aimer le yoga. Donc vraiment, c'est
En fait, on se rendait compte qu'il n'y avait pas... On se disait, mais nous, on est des filles qui aimons la mode. Mm. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un yoga qui parle à des filles comme nous ?
Ouais.
C'était trop bizarre. Et en fait, on s'est dit, il faut qu'on dépoussière un peu le yoga. À l'époque, c'était donc il y a 5 ans maintenant.
Ouais.
Un peu plus de 5 ans. Non, un peu moins de 5 ans, pardon. Et en fait, il y a Simon Rivero, qui a fait notre logo, notre charte graphique.
Ah ouais.
Super, super.
Toujours là. Il nous a designé nos tapis de yoga, qui sont super beaux.
Ouais.
Et c'était parti, en fait. Et moi, je me suis mis à fond dans le projet, à côté de mes missions freelance, pour promouvoir tout ça. On a fait beaucoup d'events.
Mm.
On a travaillé très vite avec Nike. Donc, il s'est passé très vite plein de choses pour Humble et nos cours sont vite devenus sold out. Très, très vite.
Moi, je les voyais sur Insta à mort.
Ouais. Ouais. Ouais, bah oui, pendant le confinement, peut-être t'as dû voir. Non, même pas.
Non,
même avant ça, je postais beaucoup ça quand je venais pratiquer. C'était cool.
Ouais, voilà.
Mais c'est vrai qu'il fallait être vif. Hein.
Ouais.
Et vous avez après progressivement ajouté plus de séances, trouvé d'autres endroits.
C'est ça. Enfin... En fait, au début, il n'y avait que Dani qui donnait les cours, qui était prof. Moi, après, je me suis formée naturellement, je suis devenue prof aussi. Et puis, en fait, on a rajouté plein de cours et de un cours, on est passé à 12 cours. Enfin, ça, progressivement, en l'espace d'un an, ça allait très très vite. Et on a formé des profs et à notre méthode, enfin, surtout Dani, parce que c'est son... Moi, je suis plus sur l'aspect développement de marque et elle est sur l'aspect plus yoga, les profs, les salles, etc. Et elle formait les profs et très vite on a eu plusieurs profs qui travaillaient avec nous. Et là, et moi je me dis, mais quand même, je suis designer, il me manque un petit truc. C'est cool l'image, mais j'aime bien toucher ce que je crée. Et là, l'upcycling, parce que. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand t'es entrepreneur, ce que je pense plein d'entrepreneurs savent, c'est t'es pauvre, quoi. Tu ne gagnes pas un rond. Oui. T'es grave pauvre, quoi. D'un salaire de DH, je passais à un truc, je galérais chaque fin de mois. Et pour m'habiller, du coup, j'étais passée sur Le Bon Coin. Il n'y avait pas encore Vinted à l'époque.
Ouais.
Et je revendais mes fringues. Parce que forcément, en étant passée dans plein de maisons de luxe, j'avais plein de fringues à vendre. Et c'est comme ça que je suis un peu tombée dans la mode responsable, en fait. Je me suis rendu compte que tous ces vêtements que j'avais dans mon placard, ils me servaient vraiment à rien. Et puis, il y a eu le yoga aussi qui met des petites graines dans ta tête pour être...
Un nouveau style de vie, quoi.
Une manière d'aborder la vie différemment. Et je me suis dit, ok, là, je suis designer, je sais ce que c'est de produire un vêtement. Je sais qu'un vêtement qui sort à 4 euros, un t-shirt à 4 euros, c'est pas possible, en fait. Il y a un moment... Et donc, j'ai pris conscience de tout ça. Et puis, petit à petit, j'ai arrêté de consommer sans réfléchir. Arrêté complètement le fast fashion. Je consommais chez Zara, comme tout le monde. Et en fait, quand Humble Warrior s'est mis à bien rouler, je me suis dit, ok, j'ai envie de lancer un truc, mais... pas de la même manière que je l'aurais lancé il y a quelques années. Et c'est là où je me suis dit, l'upcycling, c'est la super solution. Il y a plein de choses qui dorment partout. Je sais que dans les maisons dans lesquelles je suis passée, il y a des tiroirs entiers de perles, de Swarovski, de chaînes qui dorment. J'ai envie de faire revivre ces choses qui dorment partout, que ce soit dans les maisons, dans les vide-greniers, sur Emmaüs, enfin chez Emmaüs, tout ça. Donc j'ai lancé la marque toute seule, mais en plus en me disant, c'est pour arrondir mes fins de mois, quoi. C'était vraiment pour me faire plaisir et me ramener un petit peu d'argent. Plus
du beurre dans les épinards.
Ouais, exactement. Parce que je donnais des cours de yoga à gauche à droite, j'avais un peu Humble, mais bon, c'est vrai que je vivais avec des petits trucs, mais j'avais pas besoin de plus, quoi. Et en fait, je lance ça et le premier drop, tout part en une soirée.
Ouais, c'est très très rapide, direct. Hein, les premiers launches que t'as fait.
Et c'est vrai que même si j'avais l'objectif de faire ça à la cool, j'avais quand même une stratégie, dans le sens où je me disais, ok, ma marque d'upcycling, je savais que je voulais pas que ce soit un truc qui plaise que aux filles, je voulais que ça plaise autant aux mecs qu'aux nanas. J'avais l'objectif de travailler avec Nike. Tout de suite, je me suis dit, ok, Nike, ils me connaissent déjà un peu avec Humble Warrior, il faut que j'arrive à les attraper avec ça aussi. Donc, par exemple, les premières personnes que j'avais shootées pour le premier drop, c'était que des gens qui étaient regardés par Nike, donc des DJ un peu cool de Paris... que des gens qui étaient un peu regardés par les RP de Nike. Donc très vite, les collabs avec Nike sont arrivés. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais. Et en fait, c'est très drôle parce que Nike m'ont appelé, j'étais enceinte de 9 mois. Et ils me disent, ouais, on a envie de faire une collab avec toi. Avec ta marque, on sort une paire de sneakers. On aimerait bien qu'il y ait une masterclass upcycling qui aille avec, parce que l'histoire de cette sneakers-là, c'est un peu reprendre de l'ancien pour faire du neuf. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Et moi, j'étais grave chaude, quoi. Genre, j'étais hyper contente parce que la marque était toute jeune, elle avait à peine un an.
Ouais.
Et là, ils me disent ça, et puis je fais OK, on se donne rendez-vous, on s'appelle mercredi, c'était par mail, tout ça. On s'appelle mercredi pour en parler de vive voix. Et en fait, mardi matin, je perds les os, quoi. Donc, du coup, j'envoie un texto à la nana avec qui j'étais en contact de Nike. Je dis, bon, le rendez-vous de demain, on va le repousser. On va le repousser à quelques jours. Je te tiens au courant. Là, je vais à la maternité. Elle me dit, ok, t'inquiète, mais il n'y a pas de problème. Elle était en train de me dire, limite, on annule, tu vois, t'inquiète. Moi, je fais, non, mais par contre, on n'annule rien. On n'annule rien du tout, c'est mort. J'accouche. Deux jours après la maternité, il y avait India dans le petit truc, j'étais avec Nike au téléphone. Et avec India qui pleurait, j'ai dit « Attends deux secondes et tout ». Et en fait, avec le recul, je sais pas comment j'ai fait, mais je leur ai répondu 50 pièces uniques avec un bébé de un mois dans les pattes.
C'est ouf.
Genre j'ai fait les masterclass chez Nike, j'avais des montées de lait, je devais monter en haut pour tirer mon lait, redescendre pour faire les masterclass, c'était... Mais en fait, j'avais la tête dans le guidon, je savais pas ce que je faisais, je pense. J'étais boostée par les hormones, j'en sais rien.
Ouais, putain, c'est ouf.
Mais ouais, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais comment j'ai fait? Et j'ai des vidéos de moi, je revois le truc où je me filmais, en fait, à l'époque. Et je me vois faire les bijoux et avoir un pied sur le transat du bébé.
Pour la
secouer le bébé et faire les bijoux en même temps. Mais
c'est incroyable comme image. Mais du coup, tu tombes enceinte, t'as du coup Humble Warrior qui fonctionne bien et tout.
Ouais.
T'étais au tout début de ta marque. À aucun moment, tu te dis, bon, bah, ça va peut-être faire un peu beaucoup de bébés, tout ça.
Rien. Je me rendais pas compte, je pense.
Non.
Et après, moi, les bijoux, comme je dis, au début, c'était vraiment sympa. Et puis, comme j'avais aucune pression financière, j'avais pas de frais comme aujourd'hui pour la marque de bijoux, je me dis bah au pire c'est je un ralentis rythme, c'est pas quoi. Grave ouais, voilà ouais, c'est ouais. À mon rythme donc il y avait zéro pression mais c'est vrai que quand Nike est arrivé je me suis dit il faut que tu prennes cette vague en fait tu peux pas
ouais, c'est une grosse opportunité
voilà et je me voyais pas faire un truc avec Nike et rien avoir sur mon shop. Donc en fait, je travaillais pour avoir des trucs sur mon shop, parce que je me suis dit, ça va rebondir sur mon e-commerce, je voulais pas que les gens cliquent et qu'il y ait rien sur mon shop. Donc en fait, il y a eu ça d'un coup, mais je me suis pas dit, non, je le fais pas parce qu'il y a un bébé qui arrive. J'ai même pas pensé un instant, c'était même pas en émotion. Donc on a sorti ça, enfin je dis on, je me suis fait aider de ma première stagiaire de Hero, de Paralix, et mon mec, évidemment, Enzo, qui m'a aidé, il m'a aidé à tout assembler et tout ça, on a travaillé comme des dingues. Et ça a payé, puisqu'après, forcément, quand tu dis aux gens, t'as fait une collab avec Nike,
ah, c'est un autre
ça
niveau.
Part très vite. Et j'ai continué à travailler toute seule, les drops s'épuisaient et tout ça, en une soirée, tranquille. Et en fait, il y a eu le Covid. Donc j'ai pu donner de cours de yoga comme je faisais avant chez les particuliers, je donnais des cours de yoga à mes copines stylistes dans les maisons à gauche à droite, je pouvais plus et je me suis dit ok bon bah j'ai plus l'argent des cours qui rentrent, il faut que je vende un peu plus de bijoux et en fait c'était fantastique pour ça le confinement, c'est que les gens étaient sur leur téléphone et en fait j'ai communiqué à fond sur les coulisses de la marque qui n'était que mon salon en réalité mais j'ai montré le procédé créatif. Pourquoi je suis rentrée là-dedans. J'ai fait plein de lives. À l'époque, ça cartonnait les lives pendant le confinement.
Grave.
Et en fait, c'est à partir de là où les drops ne se sont pas épuisés en une soirée. Ils sont épuisés en 10 minutes. Mmh. Et je me souviens, le premier drop du confinement, je regardais l'écran. Je disais à mon mec, mais il n'y a plus rien. Et je croyais qu'il y avait eu un bug, en fait. Et donc, c'est je regarde mon site et il n'y avait plus rien. Donc, j'ai fait plein de drops pendant le confinement. Et je me suis dit, allez, pareil, on prend cette vague. Et à la suite de ça, c'est là où j'ai commencé à un peu investir dans ma marque, apprendre à rémunérer des stagiaires et à prendre un peu plus de risques financiers. Et maintenant, j'en suis là avec des bureaux, 4 freelances, une stagiaire et encore des choses à accomplir, quoi.
Bah, voilà. Énormément, mais t'as fait un chemin de dingue. T'as distribué aussi au printemps, il me semble.
Voilà, plus maintenant, parce que j'ai décidé d'arrêter.
T'as fait ça un petit moment, c'est quand même assez ouf aussi d'être
référencée. Ouais, ça c'était fou. Ouais, parce que là, à ce moment-là... Quand t'es au printemps, ils te demandent d'apporter ta propre force de vente.
Ouais.
Faut savoir que le printemps est ouvert de 7h du mat à 9h du mat à 20h tous les jours, même le dimanche. Donc quand t'es une petite marque, rémunérer des vendeurs,
deux ou trois salariés,
c'est pas possible. Ouais, voilà. Donc j'ai pris le choix de prendre des stagiaires qui passaient un peu sur le corner et un peu à mon studio. Donc j'avais une armée de stagiaires, un planning fou parce qu'il fallait qu'elles tournent entre le studio et le printemps. Donc je me suis retrouvée avec 10 personnes, on était 10.
Wow.
C'était de la folie furieuse, ça a duré 2 mois. Donc autant dire qu'à la fin des 2 mois, j'ai dit au printemps, on arrête,
c'est
possible. Ça a très très bien marché, mais c'était émotionnellement épuisant. Mais vraiment une charge mentale de fou d'avoir autant de personnes d'un coup. Qui travaille avec toi, même si c'était 5 stagiaires et 5 freelances, c'est trop en fait pour moi. Genre, surtout quand tu pars de la marque en disant je vais faire des petits bijoux chez moi et tout d'un coup tu te retrouves avec une armée, tu vois. Donc voilà, j'étais contente d'arrêter.
Comment tu arrives à te structurer autant? T'es quelqu'un de très organisé?
Ouais, naturellement, je suis assez organisée et en fait. J'ai commencé... en fait, j'ai toujours gardé en tête qu'il fallait pas... comment expliquer? Il faut, quand on crée un business, ce qui est important, je pense, c'est de garder en tête quelle est ta valeur ajoutée à toi dans ce business. Moi, dans ma marque, ma valeur ajoutée, c'est ma créativité en termes de design et en termes de vision. Mais c'est pas de faire des colis, des cartons, répondre aux mails du service après-vente. C'est en aucun cas ça. Et c'est pas faire des posts Instagram, c'est pas ça mon point fort. Et donc je me suis dit très vite, il faut que t'aies quelqu'un qui te permette d'exploiter au maximum ta valeur ajoutée dans ta marque pour que ta marque, elle évolue. Donc,
ça, c'est la problématique du temps.
Exactement.
Sur une jeune marque.
C'est ça, le temps. Et puis aussi, tu sais, il y a un truc, quand t'as ta marque, ça te rassure de faire des cartons. Parce qu'à la fin de la journée, c'est là genre, ah c'est bien, j'ai fait mes colis. Mais en réalité, t'as pas travaillé, t'as juste fait des colis. Et en fait, je voulais surtout pas tomber dans ce truc-là, où tu te retrouves à être rassurée parce que t'as fait des petites choses concrètes, mais qui ne sont pas la réalité de ton business. Donc très vite, j'ai voulu me faire accompagner sur cet aspect-là, post Instagram, faire les photos. Enfin, quand je dis les photos, c'est les photos nature morte, packshot, quoi. Poster sur Insta, répondre aux clients, faire les bordereaux. Et en fait, il y a une Charlotte qui est arrivée et qui m'a énormément aidée, qui est maintenant mon bras droit en termes de direction artistique image. Et après, il y a une autre stagiaire qui est arrivée, qui m'a aidée sur l'aspect développement de collection. Parce que pareil, quand je fais mes collections, j'ai un collier, comme par exemple celui-ci, et après il est répété 3 fois. Mais ça reste de la pièce unique parce que c'est des perles vintage, donc je sacherai même la même chose. Donc il me faut une fille qui a quand même un regard de styliste, qui sait
comment fonctionne
une déclinaison créative. Mais moi, je ne vais pas m'amuser à faire les doublons et triplons. Donc moi, j'en fais un, et elle me fait les doublons et triplons. En fait, c'est comme ça que j'arrive à maximiser... ma valeur ajoutée, c'est de déléguer au maximum ce qui n'est pas de la valeur ajoutée, ma valeur ajoutée à moi. Voilà.
C'est hyper intéressant.
C'est fort en management.
Ouais.
Parce que toi, t'as fait une école de mode, mais t'as pas fait une école de management ou une business school, on est d'accord?
Non, ouais, pas du tout. Ouais. Mais tu vois, c'est drôle
parce que les gens ont du mal à comprendre ça. Ouais. Souvent, c'est ce que tu dis, t'es dans la boucle de ok, je vais tout faire de toute façon, et tu comprends pas que. Dégager du temps pour pouvoir passer du temps à faire que là où t'as de la valeur ajoutée, en fait, c'est ça la clé du truc.
C'est ça, ouais. Bah, en fait, je l'ai compris. Bah, je pense que c'est ma première expérience entrepreneuriale qui m'a vachement appris, mine de rien. Et aussi, mine de rien, c'est ça, c'est que je me rends compte que j'ai toujours été intéressée par le business de la mode. Et puis, quand j'étais étudiante aux Arts Déco, mon mémoire de fin d'année, c'était pas du tout sur les couleurs ou les machins, c'était pas du tout un truc réel. J'avais parlé des... Est-ce qu'un défilé est-il vraiment portable ? Donc j'avais parlé des collections des commercialités, des collections préco, de
tout ça. Spoiler alert, non.
Non, exactement. Voilà, c'est ça. Et en fait, je me souviens, je m'étais fait grave tailler parce que les arts déco, c'est un peu comme les beaux-arts, quoi. Tu vois, il faut que tu sois un créa et tu restes dans ta bulle de créa. Il m'avait dit, mais t'es pas en marketing ici, tu vois. Et en fait, moi, j'avais trouvé ça trop passionnant de comprendre le système des maisons, comment ils construisent leurs collections, pourquoi quand tu vois une pièce ultra forte, tu retrouves une petite déclinaison en boutique ou pas du tout. Mine de rien, enfin ouais, ça, c'est un truc qui me fascinait déjà. J'avais lu plein de trucs sur ça et tout, et pourtant j'avais pas l'envie d'entreprendre du tout. Donc c'est peut-être quelque chose qui était en moi.
Ah, c'était en toi, mais tu le
savais
pas. Ouais,
je savais pas, exactement.
Ouais. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que j'ai surtout l'impression que tu as su vachement bien t'entourer, parce que c'est une chose de se dire, ok, je prends des stagiaires. Je recrute, etc. Mais trouver les bonnes personnes, c'est tellement compliqué pour des petites marques.
C'est dur et en même temps, j'essaye d'être au maximum tolérante. Parce que bon, bah, j'ai pas beaucoup de moyens, donc je vais pas prendre un senior à la direction artistique. Donc j'accepte aussi de former un peu les personnes avec qui je travaille. Et aussi, j'accepte qu'elles m'amènent autre chose que ce que j'ai pensé à la base. C'est ce que je trouve intéressant quand on travaille en équipe, c'est que tu fais un ping-pong à l'idée, et puis tout d'un coup tu te dis, ah mais ouais, en fait, et c'est comme ça que tes idées, elles s'enrichissent en fait. C'est vrai que si t'es toute seule en train de te faire ton ping-pong contre un mur, c'est moins riche. Ouais. Enfin, moi, je pense que c'est moins riche.
Ah oui, c'est sûr.
Donc, et là, ce qui est cool, c'est que c'est des filles qui sont plus jeunes que moi, et ça, j'adore, parce qu'elles me ramènent vers...
Un côté frais.
Voilà, tu vois, il y a Manon qui monte mes vlogs, parce qu'entre-temps, on a monté une chaîne YouTube.
Ouais, j'ai trop envie qu'on parle de ça, parce que j'adore tes vlogs.
Bah, grâce à Manon, qui était une de mes stagiaires, et c'est elle qui... Moi, j'adore YouTube. Je suis une grosse consommatrice de vlogs, genre, ça me fascine totalement.
Deuxième,
c'est vrai.
Attends, moi, j'ai deux types de vlogs que je consomme. Il y a ceux que je consomme un peu, pas en mode télé-réalité, mais des trucs qui sont genre, pas absurdes, mais genre aux antipodes de mon univers.
Ouais,
genre...
bah, je vois tout à fait.
je vais dire des noms, genre, Akram GMK, des mecs de voiture, alors que j'ai pas de voiture, de trucs machin, mais je sais pas, genre,
ça
juste les regarde, c'est genre. Et après, il y a des trucs qui me concernent vraiment, tu vois, des trucs, je regarde pas mal
beaucoup
de trucs de finance,
toi.
De trucs. Ouais, ah ouais, les blocs de montre.
Attention.
Ah ouais,
ouais, Romain Charaf, tout ça. Ouais.
Ah,
il y a des trucs qui sont hyper bien faits. Moi, je suis fan de montres, donc c'est pour
d'accord.
ça aussi.
Okay.
Mais ouais, moi, j'ai découvert YouTube pendant le confinement, en fait. Enfin, je connaissais YouTube, bien sûr.
Oui, bien
tu vois.
Sûr. Mais qu'est-ce qu'il y avait vraiment sur YouTube?
Ouais, le côté accro à YouTube, ça a commencé vraiment.
C'est drôle.
Ouais, au confinement.
Les profondeurs.
Ouais. La dipense.
Mais non, mais l'idée des vlogs, elle est hyper intéressante parce que j'ai l'impression, en tout cas moi qui les consomme de temps en temps et tout, j'ai l'impression qu'on apprend vachement à te connaître.
Ouais, bah c'était le but.
Et qu'on voit la réalité de ce qu'est le quotidien d'une entrepreneuse, de quelqu'un qui crée une marque et qui... bah, et qui a aussi sa vie de tous les jours en parallèle, tu vois. Ta vie de maman, on la voit beaucoup aussi. Ta vie de couple...
Ah, faut que les activités regarde, que tu as maintenant.
Ils sont extrêmement bien faits. C'est très authentique, réel, mais en même temps cool, tu vois. Donc
C'est en fait le but, c'était. En fait, je me disais, c'est bizarre. Il y a pas de. Enfin, la mode, c'est très opaque. Quand on fait pas partie de ce milieu.
C'est pour ça qu'on fait le podcast. Hein.
Ah ouais, on comprend pas comment ça fonctionne quand on n'est pas dans ce milieu. Et je trouvais ça trop dommage de pas pas montrer les coulisses d'une marque qui est liée à la mode.
Donc... Mais culturellement, c'est le truc de la mode aussi de rester très caché, pas montrer les coulisses parce que
ils
on
ont
veut
peur.
Garder le rêve, on a peur de ce qu'on va montrer.
C'est ça.
C'est une vraie, aujourd'hui, c'est complètement différent.
Mais
et,
oui. Mais
d'ailleurs, c'est loin de la culture de base.
Ouais, c'est ça, ça change, c'est ça. Et je sens que ça change un peu. Léna Situation, je trouve qu'elle est très forte pour injecter ce côté accessible au luxe.
Jacquemus, c'est Jacquemus. Le nom, c'est pour ça.
Voilà.
La meilleure.
C'est ça. Et en fait, je me dis, je trouve ça cool de montrer aux gens la réalité d'un business entrepreneurial lié à la mode. Et en plus, ça justifie tout de suite les prix de ce que tu fais.
Il n'y
a,
ouais,
a plus jamais eu qu'une discussion sur les prix de mes colis. Ils voient pourquoi ça coûte cher. Et puis, ça donne une vraie valeur à ta marque, en fait. Et moi, je voulais aussi... que sur l'Instagram de la marque, ce soit juste l'image de la marque, et que sur mon perso et YouTube, on peut un peu plus se lâcher. Et ça me permet d'avoir une image un peu plus clean, un peu plus marque, comme une marque classique. Et sur les autres réseaux, je peux un peu plus montrer les coulisses et...
travailler et le personnel.
Personnaliser la marque, voilà, exactement.
Ouais, c'est hyper fort.
C'était ça, le but.
T'as des petits projets cool, des trucs sympas qui arrivent pour la suite?
Ouais.
Avec une énorme collab. Quand t'as commencé avec Collab Nike.
C'est clair.
Là, j'aimerais bien collaborer avec des marques plus haut de gamme. Parce que j'ai fait des collabs avec Levi's, avec StockX, avec.
T'avais fait un bomber Scott aussi, me semble.
Ouais, avec Shot,
Shot, pardon.
Non, mais en fait, on disait Scott à notre époque, mais ils m'ont dit du coup Shot chez Shot. Ils me disaient non, en fait, ça se dit Shot.
Ah, bah, donc je m'apprends quelque chose.
Moi aussi.
Voilà, moi je disais Scott aussi au collège et tout. Et en fait, j'aimerais bien essayer des marques un peu plus haut de gamme.
T'as quoi en tête?
Allez,
manifeste. C'est le moment manifestation.
Non, on est team manifeste.
Bon, moi, les marques de luxe en ce moment que j'adore, c'est l'OEV, évidemment. Ouais. Genre, c'est la marque qui me fait kiffer.
Ça correspond vachement à ton univers.
Les bijoux de Bottega, ils me font rêver.
Les grosses chaînes Bottega, ce truc-là.
Et après, t'as des marques plus endormies. Enfin, pas vraiment endormies, mais tu vois, des marques comme Léonard, je trouve ça fou que... on n'en entend pas plus parler. Bon, après, je trouve qu'en com, il y a du taf.
Ouais, c'est ça le problème.
Voilà, mais le produit...
Mais il y a 7-8 ans, ils faisaient un show de ouf, il y avait des super belles campagnes. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est essoufflé. Ouais.
Alors que leur produit est ouf.
Mais je pense qu'on va avoir un revival de quelques marques comme ça dans les prochaines années.
Il faudrait.
Il y a Missoni, là, qui est revenu Missoni, avec
Pucci,
genre de l'image de ouf.
Ouais, voilà.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Toutes ces marques-là qui étaient un peu mouvantes ces dernières années, je pense que ça va revenir.
Voilà. Et en fait, j'aimerais bien... travailler avec ce type de marque, tu vois, qui elles sont installées dans le luxe depuis des années, mais c'est pas les marques les plus hype. Enfin, l'OEV évidemment, oui, mais quand je parle de ça, c'est plus genre Léonard, comme tu dis, Riquiel, ou elles sont là, tu vois, mais elles sont pas dans les gros up de Instagram en ce moment.
Ouais.
Et je sais que ces maisons ont des stocks dormants, c'est pour ça que je pense à ça, parce que comme je suis passée dans ces maisons, je sais qu'il y a. Il y en a partout et ils ont plus le droit de jeter.
Ils ont plus le droit de brûler, plus le droit de détruire.
C'est ça.
C'est
donc,
cool, ça. C'est bien
ça pour
les marques comme ça.
Ouais, vraiment, il était temps. Donc ça, c'est l'objectif. Il y a des petites choses qui se préparent, donc on croise les doigts. Et voilà, mais c'est l'objectif de 2022 d'être plus haut de gamme, plus luxe, plus ce qui me fait rêver, en fait. Et puis, et je sais que c'est possible, en tout cas techniquement, maintenant en termes de discours et tout, je sais que c'est très difficile d'intégrer le luxe. Mais je sais qu'il y a des stocks qui dorment, donc
bah ouais.
Voilà.
Tu vas aller les chercher.
Je vais aller les chercher, je vais frapper.
Indiana Jones.
Ouais, c'est clair. Coucou. Donc voilà.
Ouais. J'aimerais bien, juste avant qu'on finisse et qu'on te libère, qu'on vienne juste sur un truc. C'est un peu perso, donc je sais pas si t'es à l'aise. J'espère que ça sera pas vexant, mais il y a un truc que je trouve hyper intéressant dans ton parcours, c'est que t'as vraiment pris le temps. Il y a cette espèce de nouveau modèle de réussite où on a l'impression que si t'as pas ta méga marque super successful à 22 ans aujourd'hui, t'es une merde.
C'est marrant, on en parlait il y a pas longtemps avec mon assistante.
Ouais, et toi, ce que je trouve hyper fort, hyper inspirant, c'est que évidemment, t'as sûrement eu plein de jolies petites réussites. Rien que, tu vois, de décrocher tes stages, c'est déjà des réussites en soi.
Ouais.
D'avoir les jobs que t'as eu, c'est super et tout. Mais ce modèle d'entrepreneur qui arrive à une espèce de gros succès et qui arrive à en vivre, qui arrive à avoir des équipes et tout, à l'âge que tu as, comme tu disais, t'as 37 ans, j'aimerais bien que ça soit un peu plus célébré, tu vois.
Ouais, j'avoue.
J'ai maman en plus.
Maman.
Oui.
Ouais, c'est vrai qu'on aime bien mettre la lumière sur les plus jeunes. On a l'impression qu'ils débarquent du jour au lendemain.
Ouais.
Après, moi, j'avoue que je m'en fous un peu d'être
en lumière.
Ouais,
non, c'est pour ça que je te dis, je veux pas que ce soit un truc, un focus, mais...
Oui, que ce soit un peu plus mise en avant, tu veux dire, sur une scène ou...
Non, je parle juste, enfin, un petit message pour changer un petit peu la mentalité, tu vois, c'est plus ça, c'est même pas un truc perso pour toi, c'est juste... Enfin,
qu'en fait,
c'est cool aussi, tu vois, de réussir et d'avoir cette espèce d'archétype de la réussite plus tard,
Ouais, plus tard.
Le temps long.
C'est ça. Mais en plus, moi, j'ai l'impression que c'est un temps qui est nécessaire.
Bah ouais, en tentant d'en parler, évidemment.
Indispensable. C'est-à-dire que si aujourd'hui, la marque, elle fonctionne, c'est parce que je suis passée par toutes ces étapes.
Ouais.
C'est pour ça aussi que j'aime bien en parler, parce que souvent, t'as des gens, ils ont l'impression que ma marque, elle a marché du jour au lendemain.
Mais il y a tout ce travail
que
t'as fait.
Tout le travail dans l'ombre de 10 ans derrière.
Ouais.
C'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Waouh, t'as trop de chance !» Et je dis « Mais c'est pas de la chance, en fait, c'est du travail. »
C'est quoi, ça. Je déteste... C'est cette phrase-là, je déteste, t'as trop de chance.
C'est ça, c'est un peu réducteur. Ouais. Et puis tu vois, même quand t'es designer, c'est pareil. Tu apprends à connaître tous les fournisseurs de la ville. Bon, moi, je les connais tous. Ils m'accueillent bien, je peux les appeler, ils mettent de côté des trucs. Et tout ça, c'est ce qui fait aussi que la marque, elle roule.
C'est le relationnel.
Développer les relations.
Même la presse, tu vois, tous les trucs de la jolie presse que j'ai eue, c'est relationnel que j'ai eu depuis des années. Donc, c'est ce que je rabâche tout le temps quand on me dit...
T'as trop de chance.
Oh, chance. Mais après, je fais jeune aussi. Je pense que les gens, ils croient que...
T'as de la chance.
Voilà. Du coup, ils ont l'impression que ça a été rapide.
Super, super facile.
Alors que non, j'ai pris le temps. Mais je ne l'ai pas du tout ressenti comme des épreuves, parce que je me suis juste laissée porter par ce qui se présentait.
Ouais,
en
c'est
fait.
Ça.
Mais aujourd'hui, si la marque, elle a fonctionné en l'espace d'un an, c'est parce que il y a eu du travail derrière. Ouais. Et puis de la réflexion sur mes expériences, pas juste je fais sans prendre de recul. Quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Enfin, tout le long de ton parcours que tu décrivais, c'est toujours ça m'a permis d'apprendre ça et d'apprendre ça et d'apprendre ça. Et ça, je pense que c'est souvent des choses, quand on se construit un peu par la négative, moi je suis une grande, enfin je prône beaucoup ça, tu vois, d'essayer plein de choses et de savoir ce que t'aimes pas pour comprendre
bien
ce
sûr.
Que t'aimes.
Ouais, ouais.
Et on le ressent vachement, même si c'est toujours a posteriori, de saisir toutes les petites occasions, tu vois, tu me disais, ouais, aller faire des yoga pants chez Lacoste, c'était pas forcément ce que j'avais en tête, mais d'avoir ce truc de se dire, je vais le tenter, je vais le faire et je verrai si j'aime
on verra
ou pas.
Bien.
Je trouve ça hyper, hyper inspirant, et c'est un conseil qui est hyper précieux, je pense, pour les...
Ouais, je pense qu'il faut... Parce que t'as plein de jeunes, tu sais, qui débarquent, qui pensent qu'ils vont direct être directeur artistique.
Mais c'est ça, ouais.
Non, t'inquiète, mais lol. On le voit.
Ouais, c'est fou, ça. Hein.
Non, mais c'est pour ça qu'on insiste beaucoup là-dessus.
Ouais, je pense que c'est tellement
beaucoup
important.
Beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de sacrifices, beaucoup,
d'humilité,
beaucoup de temps.
D'humilité, ouais. Et tu vois, genre l'autre fois, je sais plus quoi, il y avait une nana qui sortait de l'école et elle me disait... Ouais, à mon école, on m'a dit que quand je postulais pour être DA, donc elle faisait une école de communication visuelle, je pouvais demander à être payée 500 euros la journée. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, mais c'est qui tes profs, tu vois? Genre la réalité du marché,
qui,
elle
qui
est
nous
pas
donne
là.
Les,
non, mais c'est ça. Les plugs.
Et je lui ai dit, non mais non, ça c'est après dans plusieurs années, ouais, c'est pas tout ça. De suite. Ouais, ou alors, je sais pas dans quel pays tu vivras, mais... Ouais. Et c'est fou parce que... Il n'y a pas beaucoup d'écoles où on leur montre la réalité, parce que j'ai été jury dans quelques écoles, et chaque fois, je suis stupéfaite de voir qu'ils ont l'impression qu'on les attend.
Ouais, moi, ça a été une grosse désillusion, ça.
Bah ouais, personne t'attend, en fait.
Non, absolument pas, et ils t'attendent absolument pas au rate auquel tu pensais être reçu.
Donc mais c'est aussi comme ça, bon... Pour que tu saches, gros parcours scolaire.
Il le dit à chaque épisode.
Non, mais c'est pour donner le conseil, pour donner le contexte.
Ouais.
Non, mais c'est vrai que c'est aussi comme ça que ces écoles, elles vous vendent. Le truc, ça te donne
mais
envie
moi,
parce qu'on te dit oui, mais quand tu sortiras.
Toute ma vie, première journée arrivée, tu vois, avec la promo et tout, t'es assis dans un amphithéâtre avec le directeur de l'école qui te dit vous êtes l'élite de la nation.
Ah, mais moi, j'ai eu ça aussi aux Arts Déco.
Vous allez sortir de là. Toutes les portes seront ouvertes, machin. Et en fait, tu te rends compte que t'envoies 15 CV, il n'y a même pas une réponse qui te revient. T'es là genre, on m'avait menti.
Ouais, ouais.
Moi, la semaine dernière, j'ai donné des cours chez Modart à trois classes.
Ouais.
Ah, moi, je leur ai donné...
Break
dit,
it down.
Ah, mais c'est bien, c'est
ah, moi,
les gens comme
dit,
toi.
Personne ne vous attend, mais rien ne vous est dû, et va falloir vous battre.
Mais bien
ils
sûr.
Ils étaient tous là genre...
Ouais, ouais, mais c'est vrai, quoi.
Ah, mais moi,
et surtout dans les milieux de la mode, quoi. Enfin, genre, personne t'attend.
Absolument pas. Va falloir taper très
mais
très
ouais.
fort.
Il faut travailler comme un chien. Genre
je leur ai dit dans toute la classe, il y en a deux qui vont réussir.
Ils
étaient livides, les pauvres.
Mais ouais, faut qu'ils... Puis tu sais, quand tu les entends, ouais, j'ai cherché des stages et qu'ils postulent dans trois maisons, t'es là, mais non, mais postule n'importe où en fait.
Ouais, c'est clair.
Va partout.
C'est clair, c'est clair.
Faut être déterminé si tu veux
ouais.
réussir. Beaucoup travailler.
C'est
tout.
Ça. Et ouais, moi, j'ai des souvenirs de moi d'enchaîner les nuits blanches, d'être au taquet.
Bah ouais.
D'aider, d'être toujours de bonne volonté. Parce que, voilà, après, c'est dur. Hein. Moi, genre, j'ai eu des moments, tu tombes pas sur des maîtres de stage toujours sympas.
Ah non, bah non, c'est sûr.
À pleurer dans les toilettes et tout. Mais bon, avec le recul, tu vois, genre, j'ai été super. Enfin, j'ai appris tellement de choses. Ça m'a tellement aiguisé mon œil. Et par contre, ça m'a rendu. Aujourd'hui, tu vois, quand je prends des gens avec qui je travaille. C'est pas forcément des gens qui sortent d'école de mode. Tu vois, Manon qui monte mes vidéos, à la base, elle était pour m'aider sur les réseaux sociaux de la marque. Elle a fait zéro école. Elle est sortie du bac, elle a testé un truc qui lui a pas plu, elle a été serveuse. Elle m'a parlé de son parcours, elle m'a montré sa motivation. En fait, maintenant, ce que je cherche, c'est quelqu'un qui est de bonne volonté, qui est bien élevé, voilà, qui est bien élevé, tellement important au quotidien, et qui est motivé.
Et moi, si je peux rajouter, parce que c'est un des conseils, d'un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, avoir les mêmes valeurs.
Et avoir les mêmes valeurs.
Parce que faire le taf, ça s'apprend.
Ouais.
Même si quelqu'un qui est lent, ça prendra plus de temps, mais tu lui apprendras.
Ouais.
Mais s'il n'a pas les mêmes valeurs que toi, ça ne marchera pas au sein de la même boîte.
Mais vraiment, c'est ça. Ouais, ouais. Je vois les filles qui sont autour de moi. Il y a une grosse bienveillance entre nous. Tu vois, elles savent pourquoi je peux pas les payer plus. Elles savent que je suis pas là pour les arnaquer. Et elles essaient pas de m'arnaquer en retour. Tu vois, il y a un truc vraiment... Moi, je suis dans une transparence avec elles où je leur dis, écoutez, le jour où je peux faire plus, je fais plus.
Ouais.
Bien sûr.
On avance ensemble. Elles savent que c'est une mini-structure. Et il y en a une, tu vois, qui a 47 ans. Et elle travaille en consulting pour des gros trucs. Et elle est avec moi.
C'est trop chaud, ça.
Et elle me
trop
dit, cool. En fait, tu m'as redonné le goût au travail, parce qu'il y a de l'humanité. Et voilà, aujourd'hui, c'est pour ça que je m'en fous complet des diplômes. Ce qui m'intéresse, c'est ce que la personne vaut dans son travail et dans sa manière d'être en tant que personne.
Ouais, 100%.
Ouais, tellement important.
Trop, trop cool. Bravo pour ce parcours. Bravo pour la marque. Bravo pour
merci
pour
beaucoup.
C'est hyper impressionnant. On finit toujours avec des petites questions, Guillaume,
ouais.
Tu essaies de répondre un peu du tac au tac.
J'essaye.
Je commence. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné ou alors un conseil que tu as envie de donner toi, enfin, tu vois.
Ouais. Moi, ce qui me parle, enfin, ce que je garde tout le temps en tête, c'est de m'entourer de gens meilleurs que moi.
Ouais. Les gens ont peur souvent de ça.
Ouais. Alors que c'est ça, je pense.
C'est comme ça que tu grandis. Hein.
Ouais. T'apprends des autres.
Ok. Est-ce que t'as un talent caché? Je m'attends à tout avec toi.
Alors, purée, je sais pas trop. Hein. Ah, je suis un bon Dr Love. J'écoute bien mes copines et je leur donne des bons conseils.
Oh, tellement nécessaire, ça. C'est quoi ton guilty pleasure?
Ah ouais, alors moi, mon kiff, quand mon mec est pas là, quand il part en compète, C'est,
je sens qu'il y a de la télé-réalité qui se cache là.
Presque, mais c'est le film Lolita malgré moi, avec Lindsay Lohan.
Ouais.
Je ne sais pas ce que c'est.
C'est un teen movie classique des années début 2000.
Ouais.
Super girly.
C'est un peu ambiance Mean Girl, ouais, tous ces trucs-là.
Archi nul, archi bien, parce que le stylisme, genre, je me rebascule avec Paris Hilton, tout ça.
Ouais.
Et me commander des sushis. Genre, tu vois, sushi, Lolita malgré moi, je pense que j'ai vu 15 fois ce film.
Yes.
Je le kiffe trop. Je l'aime trop.
L'emoji que tu utilises le plus?
Moi, je crois que c'est l'emoji avec les larmes, là, qui rigolent, qui pleurent de rire.
Ah, okay. C'est bon, c'est bizarre.
Good vibes. C'est clair. Le dernier compte Insta que t'as suivi ou un compte que t'adores, que tu veux absolument partager?
Attends, je sais pas si je vais retenir le nom, parce qu'en fait, j'ai suivi une marque de bijoux il y a pas longtemps.
Ah putain, t'es sympa, wow, toi. Hein.
Ouais. Ouais, mais bon, c'est pas de l'upcycling. Donc, en fait, c'est des bijoux que j'ai vus sur la marque Gentle Monster.
Ah, on adore cette marque.
Ah, mais j'arrive pas à... J'ai pas... Ah, si, ça y est. Et en fait, sur leur stylisme, ils ont tagué une marque de bijoux. Mmh. Et j'ai dit, oh, c'est canon, ça. Et voilà, c'est eux. Archived Prototypes.
Ah ouais, je vois.
Okay.
Voilà, c'est eux que j'ai suivis.
Oh, bah, super sympa de partager une marque de bijoux. Vas-y,
ah.
C'est toi.
La tendance mode... Est-ce qu'il y a une tendance mode que t'as jamais comprise?
J'ai jamais essayé, enfin jamais eu envie.
Ouais. Bah, genre... Tu dis, ça c'est dur.
Bah, genre les buffalo, j'ai jamais flanché.
Ok.
Voilà.
Okay.
Et j'ai toujours trouvé ça chum. Et quand c'est revenu, j'ai jamais retenté, quoi. Ouais.
Ok, ok. Merci beaucoup, Kitsé, pour ton temps.
Merci à vous. Ouais. T'es cool.
C'était génial. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.